silhouette embrumée. Dans le matin banal d'un idiot naufragé quittant ses bacchanales, n'est-ce pas les blackouts là-bas au coin de l'infirmerie qui joue les talents scouts et jongle avec nos veines meurtries, n'est-ce pas l'étrange absence du chien funèbre au box-office, comme une sentence envoyée l'ambulance.
Mais en vain, là sur le quai, on attend le train comme des vaches dans un pré. Il est bientôt 8h20 et l'haut-parleur qui grésille.
Vous en faites pas les gars, c'est un retard de rien.
Bientôt 9h20, comme des vaches dans un pré, on attend le train, là sur le quai. Mais en vain, là sur le quai, on attend le train, comme des vaches dans un pré. Il est bientôt 10h20, et l'haut-parleur qui grésille. Ça grogne, ça vocifère, ça tape des pieds, ça serre les dents et les poings, ça mugit, ça rugit, ça smartphone, ça SMS, ça meuble, ça beugle, ça fait un de ses foins. C'est de la faute à l'État, au patronat, au syndicat, tous des bons à rien. Attente. Train.
Froton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître ni publicité, et à présent, c'est le Proton se rebiffe. Ce soir, nous allons parler de l'excellent livre de Denis Cogniaux, intitulé « Un empire bon marché, histoire et économie politique de la colonisation française, 19e-21e siècle ». C'est paru au Seuil en janvier 2023. Donc ce livre traite du colonialisme français, de ce que le colonialisme a fait aux colonies, de ce que le colonialisme a fait à la France, de ce qu'il a coûté à la France, de ce qu'il a coûté aux colonies, de ce qu'il a rapporté à la France, de ce qu'il a rapporté aux colonies, et un peu, parce que c'est très difficile de le savoir, de ce qu'il a rapporté aux colons et aux exploiteurs, tant individus qu'entreprises. Bref, un livre plus que nécessaire, et un livre d'une parfaite actualité, puisque nous sommes témoins en ce moment de l'effondrement de la France-Afrique. Pour ma part, je me garderai bien de prétendre savoir ce qu'il y a dans la tête de la junte à présent au pouvoir au Niger, et dans celle des nouveaux dirigeants du Gabon. On ne peut certes que se réjouir du départ de la dynastie mafieuse Bongo et du vigoureux coup de pied au cul donné à Macron par le Niger. Mais on peut aussi, sans hélas trop de crainte de se tromper, penser que l'impérialisme français sera peut-être remplacé par l'impérialisme russe ou l'impérialisme chinois. Et, plus probable encore, on peut douter franchement qu'un coup d'état militaire conduise à la liberté. Dans l'histoire, les exemples n'en sont pas vraiment nombreux. Revenons à nos moutons. Denis Cogniaux rappelle avec sagesse, dès la page 15 de son livre, ouvrez les guillemets, l'apparente contradiction qu'un État républicain, héritier déclaré d'une révolution ayant proclamé les droits de l'homme et même ayant aboli précocement l'esclavage, puisse endosser un projet de domination impériale et coloniale, fermez les guillemets. L'une des explications que Denis Cogniaux donne de cette contradiction, qui fut, ma foi, très facile à supporter par la France et surtout par bien des Français, est, ouvrez les guillemets, dans le travail de justification, le nationalisme fit le début du chemin. Le second empire colonial fut conquis par revanche. Revanche sur les pertes de Louis XV, revanche sur l'échec de Napoléon Ier, et puis en compensation de la défaite de 1870. L'idéal républicain fit, paradoxalement, le reste. L'idée que la République française était la meilleure représentante de l'universel humain étaya la croyance dans une mission civilisatrice particulière justifiant le projet colonial, fermez les guillemets. Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage, qui veut exploiter autrui l'accuse de manquer de civilisation. L'une des difficultés du livre de Denis Cogniaux, ou plus exactement de l'enquête qu'il a dû mener, est que l'empire colonial français fut très hétérogène. Annexion pure et simple en Algérie, en Guyane, aux Antilles, mais protectorat au Maroc, mandat de la Société des Nations au Cameroun ou en Syrie, etc. L'Empire a également changé avec le temps. De la Louisiane, baptisée ainsi en l'honneur du roi Louis XIV, au très profitable et minuscule confetti d'aujourd'hui, puisque toutes ces petites îles que nous possédons dans tous les océans permettent de déclarer autour d'elles un territoire marin, et surtout donc des mines sous-marines d'une étendue aussi considérable que lucrative. Encore une autre difficulté pour le travail de Denis Cogniot. Quoique les archives ne manquent pas, bien peu d'historiens ou d'économistes avaient, avant lui, tenté d'établir sinon un bilan précis, du moins une estimation, de ce qu'a signifié, économiquement, l'impérialisme français. Le livre est donc tout à fait le bienvenu. Il est en outre extrêmement surprenant, car la propagande pro-colonialiste a toujours voulu faire croire que l'impérialisme, bien loin d'être une corne d'abondance, était en fait un trou sans fond, un lourd sacrifice pour une métropole plus généreuse que cupide. La propagande anti-colonialiste, si elle a eu raison de dévoiler les mille facettes de l'exploitation des colonies par la métropole, s'est trompée sur ce que l'impérialisme a rapporté non pas aux intermédiaires, non pas aux plus rusés et aux plus brutaux des colons, mais à la métropole, à la République. Et, puisque nous parlons des profits privés, voici l'une des choses qu'en dit Denis Cogniot, page 39. Seule une petite minorité de Français en a bénéficié. Elle a rassemblé quelques entrepreneurs, banquiers, grands commerçants, les actionnaires des entreprises qui n'ont pas fait faillite, et des fonctionnaires payés grassement qui ont accéléré leur carrière. Elle a inclus enfin de nombreux colons, installés parfois sur plusieurs générations, qui ont longtemps joui de conditions de vie qu'ils n'auraient pas pu espérer en métropole, fermez les guillemets. Arrêtons-nous un instant sur cette dernière phrase, suprêmement importante, pour expliquer la création et le maintien des empires coloniaux. Et je veux en donner une illustration, certes du tout petit bout de la lorgnette, mais extrêmement éclairante. Ma mère était une psychologue. Elle a passé la plus grande partie de sa vie professionnelle au sein du service du personnel d'Aéroports de Paris. En d'autres termes, ma mère était un cadre moyen, entre petite et moyenne bourgeoisie, pas de quoi se payer des domestiques. Mais ma mère était la fille d'un ingénieur en chef des chemins de fer d'Afrique équatoriale. Ma mère, cette petite bourgeoise, avait donc passé toute son enfance et son adolescence avec au moins un boy à son service personnel, et ne parlons pas de la cuisinière, des femmes de ménage et du chauffeur. Quand son père, mon grand-père, se vit contraint de prendre sa retraite en métropole, ce fut dans un humble pavillon de banlieue, et quand je parle de banlieue, je ne parle pas de Neuilly, je parle de Gagny. Revenons-en à Denis Cogniot et à la première surprise de son livre. Du point de vue du budget de l'État français, je vais citer la page 33, ouvrez les guillemets. L'un des aspects les plus frappants du colonialisme français est son faible coût pour la métropole. La mise sous tutelle d'un ensemble de pays couvrant une superficie 20 fois supérieure à celle de la France a peu demandé aux contribuables métropolitains, fermez les guillemets. Cogniot reprend. À toutes les périodes, les dépenses militaires ont constitué plus de 80% du coût budgétaire de l'Empire, fermez les guillemets. Voilà une belle claque au mythe de la mission civilisatrice. Oh, naïves images des hôpitaux en pleine jungle où les blondes infirmières et les pieux médecins sacrifient leur santé pour sauver celle des pauvres nègres. Non, désolé. La République française, la démocratie qui se voulait la plus universelle, a surtout dépensé pour payer ses soudards, pour payer les baïonnettes, les canonnières et les pastis dans les messes des officiers. Mieux encore, Denis Cogniot nous apprend, toujours page 33, avant 1940, ces dépenses militaires coloniales n'ont jamais dépassé 1% du revenu annuel de la France, et au total, sur plus d'un siècle, entre 1833 et 1939, la domination coloniale n'a coûté aux contribuables métropolitains que 0,5% du revenu national en moyenne et annuellement. Cognot ajoute ceci, la véritable clé de son livre de 500 pages. Le fonctionnement des États coloniaux a été principalement financé par les impôts prélevés sur les autochtones colonisés et sur les colons ou expatriés européens présents sur place, même si ces derniers ont bénéficié d'un traitement fiscal généreux, fermé les guillemets. L'auditrice à l'esprit alerte remarquera aussitôt qu'après la Seconde Guerre mondiale, les colonisés se sont rebiffés et que les dépenses militaires coloniales ont été contraintes de bondir. Exact. Mais pas tant que ça. De 1946 à 1952, nous indique Cognot, les dites dépenses militaires coloniales n'ont jamais dépassé 2,5% du PIB annuel. Et comme on s'est rendu compte, un peu tard, que si l'on espérait garder les colonisés, il fallait peut-être qu'ils tirent quelques bénéfices de la colonisation. Les dépenses de, on ne ricane pas au fond de la classe, de développement économique et social ont elles aussi bondi. Hé, 0,5% du PIB français ont, dans cette période de 1946 à 1952, été consacrés au développement économique et social de plus de 200 millions de personnes. Chapeau la France! En résumé, à la période la plus coûteuse et la moins glorieuse de l'impérialisme français, la colonisation n'a pourtant jamais coûté plus de 3% du revenu du contribuable de la métropole. Avec une ironie d'autant plus mordante qu'elle est masquée par un ton tout à fait universitaire, Denis Cognot remarque que, ouvrez les guillemets, la colonisation n'a pas instauré de grands transferts de ressources entre la métropole et ses sujets, auxquels on a, par ailleurs, dénié l'essentiel des droits politiques. L'écart béant de richesse entre la France et ses colonies n'a pas été réduit. Si on se limite au XXe siècle, l'écart de revenus entre l'Empire et la métropole est le même en 1940 qu'en 1900. Fermez les guillemets. Denis Cognot s'est limité, avec sagesse, à l'impérialisme français. Mais il semble bien que son supérieur, le concurrent qu'il a constamment tenté d'égaler, l'impérialisme britannique, a lui aussi coûté assez peu à sa métropole. Par exemple, dans la plus grande colonie britannique, l'Inde, les dépenses militaires étaient entièrement à la charge de l'Inde colonisée. Pardonnez ce retour au petit bout de la lorgnette, mais cela me fait penser aux caisses automatiques qui ont fleuri dans tous les supermarchés et qui permettent d'accomplir ce joli miracle que le consommateur se couillonne tout seul comme un grand. Eh bien, à plus grande échelle, les impérialismes ont réussi à faire en sorte que les colonisés payent pour leur propre exploitation. Thank you. écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. C'est ce soir Le Proton sur Bif, consacré au livre de Denis Cogniot, Un empire bon marché, histoire et économie politique de la colonisation française, 19e-21e siècle, paru au Seuil. Le premier chapitre du livre de Denis Cogniot est logiquement consacré au véritable début du colonialisme français, la colonisation de l'Algérie. Bien sûr, cela faisait déjà longtemps que, vexé que l'Espagne, le Portugal et pire que tout l'Angleterre, se taillent de vastes empires, la France raflait peuples et territoires. Mais précisément, ces trois concurrents raflèrent, eux, les poires les plus juteuses. Et surtout, Espagne, Portugal et Angleterre disposaient de marines de guerre nettement plus efficaces que la royale. Et donc, avant 1830, l'histoire coloniale française ferait plutôt sourire, si l'on pouvait oublier les souffrances des colonisés, puisque l'histoire coloniale française est constellée de diverses défaites et cessions à l'Angleterre, voire aux États-Unis, puisque l'on se souvient que Napoléon leur vendit le gigantesque territoire que l'on appelait la Louisiane pour une bouchée de pain. D'ailleurs, l'un des pires crimes de la colonisation française fut commis précisément par Napoléon. Alors que la Convention avait décrété en 1794 l'abolition de l'esclavage dans tous les territoires contrôlés par la République, Napoléon, avec une stupéfiante cruauté, remit en 1802 en esclavage tous les Noirs qui en avaient été libérés. Toujours est-il qu'avant 1830, l'Empire colonial français, c'est un short avec des trous et pas un grand costume de couronnement avec traîne tenue par deux pages. Donc, 1830. On sait que les principales motivations du débarquement militaire français en Algérie sont 1. Le désir de venger l'humiliation du coup d'éventail donné par le Dey d'Alger au consul de France. Oui, des milliers de morts pour venger un coup d'éventail passant. 2. Le fait que Charles X sentait qu'il était encore plus détesté en 1830 que Macron en 2023. Il crut donc, vieille recette des chefs d'État impopulaires, qu'une bonne guerre rétablirait son prestige. Manque de chance, écraser l'Algérie sous le talon français ne lui évitera pas de recevoir le magistral coup de pied au cul des Trois Glorieuses. Louis-Philippe, son successeur, se demande s'il doit développer l'invasion ou s'en tenir au peu qui a été acquis. Mais Thiers, qui a décidément une longue liste de crimes à son nom, Thiers pousse à la roue. Notons en passant que dès 1830, des affairistes tentent de décrire l'Algérie comme non seulement une terre de cocagne, mais surtout comme une terre de cocagne à peu près vide, anticipant avec un siècle d'avance le fantasme d'une Palestine vide d'habitants, ou si habitants il y a, si primitifs, si sauvages, qu'un peu de civilisation ne leur fera pas de mal. Arrive Bugeaud, qui met 7 ans avec 100 000 hommes, pour venir à bout de la mauvaise volonté que mettent les Algériens à devenir les valets de la France. Il met en place ce type de division scandaleuse présente dans presque toutes les colonies du monde. Il divise l'Algérie en territoires dits civils, ou mixtes, ou arabes. Arabes, cela veut dire qu'il n'y a pas pour l'instant de Français dedans. Mixtes, qu'il y en a encore très peu. Civils, ce beau mot « civil » signifie là tout simplement les territoires où la loi de la France s'applique à tous et où les colons dits « européens » s'arrogent la plus belle part des terres agricoles. La Deuxième République, celle qui naît de la Révolution de 1848, ou plus exactement celle qui va dévoyer la Révolution de 1848, va un cran plus loin et décrète que les territoires civils de l'Algérie font partie intégrante de la République, et elle les dote de préfets, jetant ainsi allègrement les bases des horreurs de la guerre d'Algérie un siècle plus tard. Après l'humiliation de la défaite de 1870, et la panique provoquée par la Commune de Paris, la colonisation de l'Algérie permet de prendre des revanches faciles. Entre 1871 et 1900, la population européenne, c'est-à-dire en réalité française, espagnole et italienne, atteint les 650 000 personnes, soit 13% de la population de l'Algérie. Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité, Ce soir, le Proton sur le Bif est consacré au livre de Denis Cogniaux, Un empire bon marché, histoire et économie politique de la colonisation française, 19e-21e siècle, paru au Seuil. Denis Cogniaux montre que l'Algérie présente, de manière exacerbée, nombre des contradictions du colonialisme prétendu républicain. Tout d'abord, le poids de l'armée, non seulement premier poste de dépense, mais aussi, de manière incomparable avec son statut en métropole, la seule garante de la pérennité de la présence coloniale. Ensuite, une administration coloniale. En théorie, en métropole, l'administration est subordonnée au pouvoir dit démocratique. Mais dans les colonies, rien ne masque le pouvoir dictatorial des administrations françaises expatriées sur la population algérienne autochtone. Ensuite encore, les représentants des colons. Ne surtout pas les négliger, car comme le souligne Denis Cogniaux, eux ont le temps devant eux. Les administrateurs coloniaux sont soumis, et d'ailleurs en général souhaitent, à la rotation. On ne fait pas sa carrière en Kabylie, on fait sa carrière dans l'administration. Mais les représentants des colons, eux, le sont très souvent à vie, ou presque. Enfin, les élites autochtones, qui, comme partout ailleurs, sont d'abord tentées de jouer à fond la carte de la collaboration, mon mot est idéalement choisi, avec toutes les arrière-pensées évidentes. Mais avec le temps, à mesure que la supériorité des technologies militaires européennes perd de son mystère, que les guerres européennes prouvent que tous les pays européens sans exception subissent à un moment ou à un autre des défaites, alors les élites autochtones se rendent compte qu'elles pourraient devenir calife à la place du calife. N'oublions pas, en métropole, les rivalités et les corruptions entre ministres, députés d'opposition, gros financiers, gros industriels, gros commerçants, etc. Mais comme la colonisation semble fonctionner en Algérie, qu'elle permet de plastronner par les si nombreuses victoires remportées sur les indigènes, que ceux qui y gagnent de l'argent réclament à haut cri qu'elle se renforce et qu'elle s'étende, et que les autres pays européens se sont jetés dans une course aux colonies, et qu'il est hors de question de se faire distancer par l'ennemi héréditaire, l'Angleterre, et l'ennemi récent, l'Allemagne, la Troisième République va considérablement étendre l'empire colonial français, même si en Afrique, elle doit se contenter de ce dont l'Angleterre ne veut pas, et en Asie de ce que l'Angleterre, trop occupée ailleurs, l'Allemagne trop lointaine et la Chine trop décadente, ne peuvent pas prendre. En particulier l'Indochine, dont le niveau d'urbanisation et d'alphabétisation rendait pourtant le prétexte de la mission civilisatrice entièrement absurde. Page 65, Denis Cogniaux cite d'ailleurs un extrait célèbre d'un discours de Clémenceau qui eut la décence de s'opposer à la colonisation de l'Indochine. Ouvrez les guillemets. « Race supérieure, race inférieure, c'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats singulièrement, depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarde à deux fois, avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer « homme » ou « civilisation inférieure ». Fermez les guillemets. Et pour continuer à sourire, rappelons que l'inénarrable imbécile Paul Déroulède s'opposait lui aussi à l'aventure coloniale, mais pour la seule raison qu'elle détournait les énergies de la nation de l'unique but digne de la patrie, la revanche. À la même époque, la Troisième République envoie une expédition à Madagascar et y commet peut-être les pires massacres de la colonisation. Selon des sources malgaches, le nombre total des victimes de la colonisation française à Madagascar jusqu'à la victoire française pourrait se compter en centaines de milliers. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Ce soir, le Proton se rebiffe parle du livre de Denis Cognot, Un empire bon marché, histoire et économie politique de la colonisation française, 19e-21e siècle, paru au Seuil en janvier 2023. Dans son chapitre « Avant l'Empire », Cognot repose une question longuement débattue et que les Britanniques avaient posée avec concision. « Did the trade go before the flag ?» Le commerce a-t-il précédé le drapeau ? C'est-à-dire, le désir d'exploiter a-t-il entraîné le désir de dominer ou est-ce l'inverse ? Bien malin qui pourrait affirmer avec certitude ce qui s'est passé dans la tête des colonisateurs. Une partie de la réponse tient toutefois dans le fait que les mots « les colonisateurs » n'ont pas de sens bien précis. Les motivations des colons agricoles espagnols ou italiens qui venaient accaparer des terres en Algérie n'étaient pas les mêmes que celles des ministres en métropole, elles-mêmes pas nécessairement identiques à celles de l'état-major, elles-mêmes différentes de celles des banquiers salivant devant la perspective des chemins de fer à construire et apportant tel ou tel minerai vers des ports eux aussi à construire et à opérer. Je rappelle à ce sujet que bonne part de la fortune de Vincent Bolloré, le milliardaire amoureux de Mgr Lefebvre, a été construite grâce à son contrôle de nombre de ports africains. Une chose est sûre, le colonialisme n'a jamais fait l'unanimité, la mission civilisatrice non plus. Souvenons-nous que des gens comme Montaigne, Diderot ou même Adam Smith ne voyaient pas nécessairement les non-européens comme des quasi-animaux. Et d'ailleurs, le terme « civilisation » n'apparaît qu'assez tard dans la langue française, dans le dernier quart du XVIIIe siècle. Une autre chose est à prendre en compte. L'un des paradoxes du colonialisme est indiqué par une phrase toute simple du livre de Denis Cognot, page 105. Dans les quartiers européens des villes qui atteignent une taille significative à Alger, Oran, Tunis, mais aussi Saigon, Hanoï, Casablanca, les aménagements et les services urbains offrent aussi de belles opportunités de profit, même si la taille des investissements est limitée par celle de la population solvable. Fermez les guillemets. En d'autres termes, le colonialisme est tiraillé entre deux possibilités de profit capitaliste, le long terme et le court terme. La vision capitaliste à long terme, celle de la croissance infinie, serait de s'efforcer de rendre les colonies et donc leur population aussi riches que les métropoles. Mais la vision capitaliste à court terme, celle du profit individuel immédiat, c'est d'extraire là, maintenant, tout de suite, le plus d'argent possible des colonies, sans se préoccuper de la richesse, de la croissance, pardon, de la richesse décolonisée. Il va sans dire que l'histoire de la colonisation européenne prouve que malgré les beaux discours sur « the white man's burden », le fardeau de l'homme blanc, ça c'est la version anglaise, ou la mission civilisatrice, ça c'est la version française, c'est toujours la version capitaliste à court terme qui a prédominé. Dans les colonies espagnoles et portugaises, la différence gigantesque entre la taille et les ressources des petites et arides métropoles et les colossales et fertiles colonies a permis à la vision à court terme de s'imposer à peu près uniquement. Dans les colonies britanniques, c'est la stratégie politico-militaire de coopter le plus possible les élites autochtones pour minimiser les coûts et maximiser l'efficacité de la domination qui a principalement mené à la suprématie de la vision à court terme. Il me semble, et là je ne parle pas du tout pour Denis Cognot, mais en mon nom personnel, que pour les colonies françaises, il y a eu une colossale hypocrisie. Il était impossible de ne pas percevoir la flagrante contradiction entre le roman national, entre la devise nationale, liberté, égalité, fraternité, et le racisme brutal, l'exploitation grossière d'autrui. D'où les envolées lyriques sur la mission civilisatrice. Mais l'hypocrisie est une tradition française solidement implantée. Pas uniquement française, bien sûr, pensons à l'apartheid sud-africain ou à la Palestine. Denis Cognot se livre à partir de la page 115 à une analyse indispensable, celle des économies et des sociétés qui ont subi la colonisation. Les puissances européennes en général, et la France en particulier, se sont attaquées à des économies beaucoup plus pauvres qu'elles, à des sociétés soit non étatiques, soit dont les États étaient en général de taille et de puissance infiniment moindres que celles des États européens centralisés, alphabétisés, en pleine révolution industrielle et disposant de technologies militaires et de transport incommensurablement supérieures. Mais là encore intervient le paradoxe. Que vaut-il mieux chasser? Quel butin paye le mieux? Un grand cerf ou un petit lapin? Dominer, pressurer, exploiter des populations analphabètes dispersées sans familiarité avec les technologies de pointe permet, oui, les succès et les profits à court terme, mais n'augure rien de bon sur le long terme, tant pour les exploités que pour les exploiteurs. Les apôtres de la colonisation ont eu beau jeu de montrer que bien des sociétés colonisées n'étaient pas vraiment des paradis. Par exemple, alors qu'en théorie, la France a aboli l'esclavage en 1848, la réalité est qu'en Afrique occidentale française, la fameuse AOF, entre un tiers et la moitié de la population souffre d'un statut qu'il faudrait bien appeler de l'esclavage, et qu'à Madagascar, près de la moitié des populations des Hautes-Terres étaient elles aussi en esclavage. D'ailleurs, encore un paradoxe, cette fréquence de l'esclavage va parfois jouer en faveur des colonisateurs. Denis Cognot rappelle, page 133, que l'armée de conquête de l'Afrique de l'Ouest se constitua très largement d'esclaves rachetés à leurs maîtres, tout en ralliant des supporters grâce à la parabole abolitionniste. Les Français de Saint-Louis du Sénégal et de Dakar tergiversaient pour savoir comment ménager les princes et les chefs propriétaires d'esclaves. Et sur l'idée de Gallieni, des « villages de liberté » sont fondés au Soudan pour rassembler des esclaves libérés. Ils procurent à l'administration coloniale une main-d'œuvre facile à réquisitionner. Fermez les guillemets. Hypocrisie, j'écris ton nom. À tel point d'ailleurs que Denis Cognot indique que la plupart de ces villages seront désertés après 1910. Il indique aussi, page 139, que les principaux royaumes d'Afrique occidentale et équatoriale ont tiré leur puissance de l'exportation d'esclaves. Ô splendide bronze du Bénin, à quel prix horrible votre beauté a-t-elle été acquise? Un chiffre terrible, ouvrez les guillemets. Les estimations désormais relativement consensuelles de la traite esclavagiste européenne considèrent qu'environ 12 millions d'Africains ont été transportés à travers l'océan Atlantique entre 1400 et 1900. La traite orientale de l'océan Indien, de la mer Rouge et du Sahara aurait transporté environ 6 millions d'individus. La traite interne à l'Afrique est plus difficile à estimer. Elle a probablement concerné au moins 8 millions de personnes, fermez les guillemets. Bref, nous parlons de, au bas mot, 26 millions d'esclaves. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Nous sommes le Proton sur Bif et nous parlons ce soir de l'ouvrage de Denis Cogniot, Un empire bon marché, histoire et économie politique de la colonisation française, 19e-21e siècle, paru au Seuil. Il y a quelque chose dont on parle rarement en termes chiffrés. Combien de morts? Combien de morts a coûté la colonisation française? Et, tout aussi important, qui est mort? Car, bien entendu, les peuples colonisés ne se sont pas laissés coloniser sans résistance. Denis Cogniot rappelle ainsi, après James Scott et son excellentissime livre appelé « Zomia », qu'à l'intérieur des pays colonisés placés sous le joug d'un État, les rébellions et les sécessions étaient déjà nombreuses, en particulier dans les montagnes, c'est-à-dire dans les lieux où les peuples peuvent concrètement envoyer bouler les armées étatiques. Enfin, n'oublions pas non plus les nomades sahariens difficiles à poursuivre et bien des peuples vivant au plus profond des jungles, un environnement en général peu apprécié des adjudants-chefs. Passons aux chiffres, du moins aux chiffres disponibles. Pour l'Algérie, et uniquement entre 1830 et 1871, il y aurait carrément eu 150 000 morts. Attention, je ne parle là que des soldats français. Mais une caractéristique étonnante de cette hécatombe est que 80% de ces 150 000 morts furent dus non pas aux Algériens, mais aux maladies. L'un des épisodes les plus violents de la colonisation, l'invasion de Madagascar en 1895, a causé la mort de 4500 soldats français. Oui, mais seulement 25 d'entre eux sont morts au combat. On voit donc qu'en termes de la vie de ses citoyens, la République française n'a pas vraiment eu une bonne idée en se lançant dans la colonisation, même si l'énorme supériorité technologique des armées européennes au XIXe siècle a garanti leurs écrasants succès. Hélas, l'estimation des pertes du côté des colonisés est à peu près impossible, pour la bonne raison que les pouvoirs coloniaux se sont bien gardés de procéder ne serait-ce qu'à des évaluations. Pourrait-on utiliser une méthode souvent utile, celle de comparer les niveaux de population avant colonisation, puis après telle ou telle invasion, la différence révélant alors les massacres? Cette méthode a en particulier contribué à l'estimation du nombre des victimes de la Shoah, du Goulag, du Laogai et autres horreurs. Hélas encore, là aussi on ne peut pas faire grand-chose, car les estimations des niveaux de population originels sont très imprécises. Il y a eu des moments terribles, certains assez oubliés à présent. Par exemple, sur le chantier du chemin de fer Congo-Océan, entre 1925 et 1928, la mortalité des esclaves, des travailleurs forcés, s'est probablement élevée à 30% de la main-d'œuvre. 30%, pas loin de 20 000 morts. Et nous ne parlons pas là du Congo belge, la propriété privée de Léopold II, où ce fut bien pire. Mettons qu'il est difficile d'imaginer que la colonisation française, entre combat, esclavage, malnutrition et maladie, a dû coûter un nombre de décès exprimable au strict minimum en centaines de milliers et plus vraisemblablement en millions. Je viens d'utiliser le mot esclave, qui n'est abusif qu'en ce sens que les travailleurs forcés ne l'étaient pas forcés en permanence. Mais imaginons que M. Macron décide de forcer 40 000 Auvergnats à construire un chemin de fer Aurillac-La Rochelle, qu'il paie ces 40 000 Auvergnats un dixième du SMIC pour 12 heures de travail par jour et n'offre en gros aucun service de santé sur le chantier, mais que la surveillance en revanche abonde et que tout Auvergnat désireux de quitter le chantier soit abattu comme un chien s'il court trop vite pour être rattrapé et fouetté. Que penserions-nous de M. Macron? Non, non, chères auditrices, pas la peine de téléphoner au studio pour exprimer ce que vous pensez déjà de M. Macron. Nous en pensons la même chose. Mais l'esclavage intermittent n'était pas le seul abus perpétré par la colonisation française. la spoliation foncière, joli mot pour dire le vol des terres, a évidemment été général, et s'est bien sûr appliqué d'abord aux terres les plus fertiles et les plus désirables. En gros, un quart de l'espace algérien fut ainsi confisqué au profit direct des colons européens. La spoliation politique fut tout aussi générale et effectuée par l'imposition de tout un tas de statuts et d'étiquettes, dont le seul but et le seul point commun était de dénier aux personnes colonisées la jouissance des droits de l'homme, pourtant déclarés universels. N'oublions pas l'usage des colonisés comme chair à canon. La République déclarait Africains et Arabes barbares et sans civilisation, mais se voyait bien contente d'envoyer les soldats marocains se faire tuer à l'attaque des pentes de Monte Cassino. En un domaine bien précis, la colonisation a pourtant fait preuve de plus d'efficacité que les États autochtones. On ne sera pas surpris d'entendre qu'il s'agit de la fiscalité. On lit par exemple, page 235 du livre de Denis Cognot, que si en 1902 le royaume chérifien, le royaume marocain, réussissait à prélever à peu près 2% du revenu du pays qu'il dominait, la colonisation française réussira, elle, à en prélever 9% dès 1925. Denis Cognot décrit longuement les nombreuses résistances des peuples colonisés, qu'il s'agisse de celles qui ont horriblement mal tourné, comme le FLN algérien à qui est due l'ignoble dictature actuelle en Algérie, ou celles qui ont simplement mal tourné, comme le Parti communiste vietnamien, qui, après une lutte de 30 ans et à peu près 2 millions de morts vietnamiens, 2 millions de morts vietnamiens, n'a réussi qu'à fonder qu'une oligarchie capitaliste de plus. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je ne saurais trop recommander la lecture du livre de Denis Cognot, Un empire bon marché, paru aux éditions du Seuil. Et c'était bien entendu Le Proton se rebiffe. Avec toutes mes excuses pour les très nombreuses imperfections techniques, j'ai enregistré cette émission tout seul chez moi. Et ma maladresse en la matière est encore abyssale. Mais j'espère quand même que le sujet a pu vous intéresser. Donc je vous revois tous les troisièmes lundis du mois. Et vous êtes bien sûr encore sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. Le Proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
L'ordre courant, la foule nous couvait d'un œil protubérant. Nous étions contemplés par le monde futile qui n'avait jamais vu de noces de ce style. Voici le vent qui souffle, emportant Crève-Cœur, le chapeau de mon père et les enfants de cœur. Voilà la pluie qui tombe en pesant bien ses gouttes, comme pour empêcher la noce coûte que coûte. Je n'oublierai jamais la mariée en pleurs, berçant comme une poupée son gros bouquet de fleurs. Moi pour la consoler, moi de toute ma morgue, sur mon harmonica, jouant les grandes orgues, tous les garçons d'honneur montrant le poing au nu, criaient par Jupiter, la noce continue. Par les hommes décriés, par les dieux contrariés, la noce continue et vive la mariée.
Blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Battre ton sang noir, voiler les tambours. Et quand le soleil, comme une blessure, fait place à la nuit, quand la mort rassure. Faut vivre encore. Combien de ratures, combien de nuits blanches, pour toucher de près ce chant qui monte. Ce qu'il faut de sang pour donner la vie, ce qu'il faut de temps pour toucher l'oubli. et vivre encore. Vivre encore, vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi. Vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur. Ce qu'il faut courir pour avoir le souffle, ce qu'il faut sentir au-dessus du gouffre, ce qu'il faut cacher pour un mot d'amour, ce qu'il faut tuer pour revoir le jour. Et vivre encore. Vivre encore. Vivre comme un cri. Cri du sang. De l'amour aussi. Vivre ailleurs. Survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur. Ce qu'il faut lâcher pour cette altitude, ce qu'il faut forcer pour la solitude, faut de la présence pour tenir la scène, prendre des distances pour tenir la tienne. Et vivre encore. Vivre encore. Vivre comme un cri. Cri du sang. De l'amour aussi. Vivre ailleurs. Survivre ici. La bataille n'est jamais fini. Quel vainqueur. Quand tu n'entends plus dans ton cœur trop lourd battre ton sang noir, voiler les tambours, et quand le soleil comme une blessure fait place à la nuit, quand la mort rassure, faut vivre encore. Pour vivre encore. Et vivre encore.
Amen. toi tu files un vrai rancard à ceux qui comme toi ne sont plus rien. Sans actualité, sans médias, sans public, sans rien. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on te paye bien. T'espères au moins que sur le refrain c'est toi qui tiens. Coluche par la main.
Radio Libertaria 89.4 FM, Radio de la Federación Anarquista.
Slušajte Slobodarski radio na 89,4 Radio bez Boga i Gospodara.
Radio Libertaria 89,4 FM.
Radio Libertaire 89.4, the radio without God or Master.
Slušajte Slobodarski radio na 89,4 Radio bez Boga i Gospodara.
Rádio Libertária, o Rádio Liberté, 89.4 FM.
Слушайте
Slobodarski radio na 89,4 FM, radio bez Boga i bez gospodara.
Rádio Libertária 89,4 FM.
Rádio Libertária 89,4 FM.
Rádio Libertária 89,4.
Rádio Libertária 89,4 FM.
Rádio Libertária
89,4.
راديو التحرري 89.4.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité.
Let's talk about my hometown. We'll be right back.
quand c'est fini, et ni ça recommence. Tous les jukebox à plein tuyau poussent la romance. Après le fox, le boléro reprend la danse. Chanson sirop dans tout plutôt, on se croirait à Rio et on. Et les nanas avec leurs gars en fin de semaine, sur le comptoir s'offre un petit noir contre une rengaine. Écoute-moi ça, je suis Sinatra et toi Marlène. Amour bidon, c'est pour 20 ronds, Broadway qui tourne en rond. Quand c'est fini, eh, ni ça recommence. À la loterie, chacun s'en va tenter sa chance. Bravo Margot, t'as le gros lot, quelle bonbonce. Du pétillant à 50 francs, ça c'est du vrai nanan alors. Et puis à ceux à qui la vie a fait la lippe, ils font la queue pour tuer l'ennui qui les agrippe. On les voit seuls et pendant l'œil casser des pipes. Pour ces crèves-cœurs, c'est leur malheur qu'ils visent au petit bonheur. Quand c'est fini, eh, ni ça recommence. Un jour je te plais, puis je te déplais, et tu me balances. Rire ou chagrin, c'est tout ou rien, quelle cadence. Mais à l'instant où je fiche le camp, tu me rattrapes au tournant. Amour à moi, l'amour c'est ça, ou gai ou triste. Quand tu es là, entre mes bras, plus rien n'existe. C'est du décor, mais je veux encore mon tour de piste. Quand c'est fini, ni, ça remet ça pour la vie. Chevaux de bois, emportez-moi au ciel en fête. 100 000 étoiles ouvrent le bal dans nos mirettes. Au grand galop, filons là-haut vers la comète. C'est beau la terre, même à l'envers, il y aura toujours de la belle amour et du ciel bleu dans tous les yeux. Quand c'est fini, eh ni, quand c'est fini, eh ni, quand c'est fini, eh ni, quand c'est fini, eh ni.
Je suis pas bien, je suis morose. J'ai plus le cœur à me bouger. Je suis brouillée.
La fille qui rend service, qui s'occupe des autres avec sollicitude, hein, mais qui les soupçonne d'agir par devoir quand il la remercie, c'est moi. La fille qui est une manière de touche à tout, mais qui laisse aller l'essentiel, c'est moi. La fille qui pense qu'elle n'a pas sa place nulle part, qu'elle est toujours sur le territoire d'autrui et qui s'excuse constamment par peur chronique de déranger. C'est moi! la fille qui considère chaque réussite, chaque exploit accompli comme tenant du hasard et qui ne les savoure jamais pour eux-mêmes.
C'est vous ?
Oui. Vous êtes chanteuse, j'adore les artistes.
Il était deux amants qui s'aimaient tendrement, qui voulaient voyager, mais ne savaient pas comment. Allons à Messine pêcher la sardine, allons à l'Orient pêcher le hareng. Qui voulait voyager, mais ne savait pas comment. Le Vilitocon,
tu seras bâtiment.
Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à l'Orient, pêcher le hareng. Le Vilitocon,
tu seras bâtiment. Je serai le grand mât qu'on plante de long.
Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à l'Orient. Pêcher le hareng,
je serai le grand mât qu'on plante dedans. Mon rouston de droite sera commandant.
Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à l'Orient, pêcher le hareng.
Mon rouston de droite sera commandant. Mon rouston de gauche sera lieutenant.
Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à l'Orient, pêcher le hareng.
Mon rouston de gauche sera lieutenant. Les poils de mon qui seront les haubans.
Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à l'Orient, pêcher le hareng.
Les poils de mon qui seront les haubans et les morpillons grimperont dedans.
Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à l'Orient, pêcher le hareng.
Et les morpillons grimperont dedans. La peau de mes couilles sera poil au vent.
Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à l'Orient.
Mes couilles feront voile au vent et le trou de mon cul soufflera de l'or.
Allons à Messine, pêcher la sardine. Allons à l'Orient, pêcher le hareng.
Et le trou de mon cul soufflera de l'or.
Sacré nom de Dieu, ça puera vous de l'or. Allons à Messine, pêcher la sardine.
Gare du Nord, gare de Lyon, gare centrale. C'est un port, une prison, c'est les Halles. Mon ticket pour ton cœur, où les gens me bousculent et m'empêchent de courir et je crie, je te cherche. Une gare au hasard, ces soldats s'en vont à la guerre. Tout cela s'en vient de l'affaire. Mon ticket pour ton cœur, tous les grands rapides t'entraînent, où jamais les amours ne reviennent. Une gare de départ, hommes d'affaires fumant dans les pullmans, immigrants perdus dans la boucane. Mon ticket pour ton cœur, entre deux valises de peine, on regarde vers ton foulard de laine. Avant que le train ne te prenne, j'ai posé mes deux mains sur les tiennes. Non, tu sur le quai, aux quatre vents éparpillés. Viens, rentrons vite chez nous à pied.
S'il te plaît, ouvre-moi les yeux. J'y vois mieux quand on est d'accord. J'y vois mieux quand je suis heureux. Je crois bien qu'on est fait pour ça, s'arranger pour être content. C'est la dernière fois qu'on est là, le cœur ouvert à deux battants. La vie file comme une savonnette, du PQ dans les escaliers. On est parti pour faire la fête, ou se retrouver fou allié. Permets-moi si tu m'aimes encore de faire un peu couler mes yeux. Mes larmes seront mieux dehors, joie brûlante ou chagrin furieux. Je crois bien qu'on est fait pour ça, s'arranger pour être vivant. C'est la première fois qu'on est là, le cœur ouvert à deux battants. La vie file comme une chaussette, la peur est un tigre en papier. Je danse à poil après la fête, et j'ai pas encore froid aux pieds. À la fin, si tu m'aimes encore, tu pourras me fermer les yeux. Quand il faut ripper vers la mort, on fera un moment délicieux. La vie file comme une comète, dans le noir on voit la lumière de sa queue. Mais dans les roupettes réside encore un grand mystère. Je crois bien qu'on est fait pour ça, s'arranger pour être confiant. C'est la première fois qu'on s'en va, là où c'est aussi bien qu'avant. Si t'es là, si tu m'aimes encore, s'il te plaît, ouvre-moi les yeux. J'y vois mieux quand on est d'accord, j'y vois mieux quand je suis heureux. Permets-moi, si tu m'aimes encore, de faire un peu couler mes yeux. Mes larmes seront mieux dehors, joie brûlante au chagrin.
Ou 89.4, comme on dit en Suisse.
Radio Libertaria 89.4 FM, Radio de la Fédération Anarchiste.
Слушайте Слободарски радио на 89.4, Радио без Бога и Господара.
Radio Libertaria 89.4 FM.
Radio Libertaire 89.4, the radio without God or master.
Слушайте Слободарски радио на 89.4, радио без Бога и Господара.
Радио Либертария, Радио Либертер, 89.4 FM.
Слушайте Слободарски радио на 89.4 FM, радио без Бога и без Господара.
Радио Либертария, 89.4 FM.
Радио Либертария, 89.4 FM.
Радио Либертария, 89.4.
Rádio Libertária 89.4 FM.
Rádio
Libertária
89.4.
Rádio Tahrouri 89 Fasl 4.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité.
Les feignants du Luxembourg, les paumés, les horribles, tous ceux qui ruent le pic viennent traîner leurs patins, les rigolos du coin.